Notre salle est bien décorée ce matin. Et ça peut vous sembler être un drôle de décor, mais c'est quelque chose de beau qui est là. Quelquefois, les cicatrices des difficultés de l'existence peuvent être des cicatrices qui rappellent qu'il y a des gens qui dorment dehors. Mais c'est des cicatrices aussi qui se ferment. Et ici, il y a des jeunes gens qui, depuis une semaine, sont accueillis dans cette salle. Et c'est une belle chose. Alors, ces matelas, ces sacs de couchage qui sont là, c'est une belle décoration pour cette salle qui voit ici une belle utilité. Le thème que j'ai choisi de partager avec vous, c'est ce qui se produit en moi est plus important que ce qui m'arrive. Ce qui se produit en moi est plus important que ce qui m'arrive. Jacques, dans son épître, commence d'une manière saisissante, presque scandaleuse, par cette phrase. Il s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion et il leur dit « Salut, bonjour. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez être exposées, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. » Jacques, il ne doit pas savoir de quoi il parle. C'est un homme qui ne connaît pas ma souffrance et mes épreuves pour parler de cette manière. Et quand vous écoutez cette parole, si vous êtes dans la douleur, vous dites... Ça m'offense, peut-être. Pourtant, Jacques dit cela, écrit cette lettre à des gens qu'il connaît. Il s'agit de frères et de sœurs juifs, dispersés hors d'Israël, qui se trouvaient au sein des églises qui étaient persécutées par leurs compatriotes juifs non convertis. Un peu comme un musulman qui se convertit au christianisme et qui se retrouve persécuté par ses frères, ses sœurs, ses parents, ses amis. Il est menacé de mort. Il a perdu probablement son travail. Imaginez recevoir une lettre pareille alors que vous venez de perdre votre travail, peut-être des proches qui ont été mis en prison, voire tués. Et que votre famille vous tourne le dos. C'est un peu comme si vous étiez en train de vous noyer, et puis que sur la berge, on vous demande « Est-ce que l'eau est bonne ?» La plupart des gens ne trouvent pas de cette suggestion de Jacques très naturelle, et même très saine. Même les philosophes, hein. Je vous rappelle cette phrase « considérée comme un sujet de joie parfaite » ou complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Un philosophe stoïque peut au mieux, au milieu de l'épreuve, serrer les poings et concentrer toutes ses forces pour ne pas céder au découragement. Mais trouver la joie dans les épreuves, ça relève, pour certains psychologues, du masochisme. Mais il semble que dans le royaume des cieux, tout soit différent. Jésus n'a-t-il pas dit « Je fais toutes choses nouvelles. Les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. » Il y a plein de paradoxes comme ça dans le royaume des cieux. Dans l'ancienne alliance, c'était une prospérité. Ben oui, on prospère. Dieu donne des bénédictions. Dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, des centaines de frères et de sœurs et des persécutions. Voilà la bénédiction pour l'Église. L'apôtre Paul chantait des cantiques dans sa prison de Philippe, alors qu'il était, il disait, ses pieds étaient dans les chaînes. Et de même, les apôtres se réjouissaient des persécutions qu'ils pouvaient subir à cause du nom de Jésus-Christ. John Bunyan, peut-être ce nom vous dit rien, mais le voyage du pèlerin, ça vous dit quelque chose. C'est un des best-sellers. Il a passé 12 ans dans une prison, dans un lieu décrit comme exécrable. Et il fit de ce lieu, et il le dit lui-même, le vestibule du paradis. Nous avons comme cela, au cours de l'histoire chrétienne, de nombreux exemples de gens qui ont vécu la joie dans des épreuves et des tourments terribles. Et il semble qu'il faille choisir la joie comme si elle se cueillait. Je choisis la joie. Dans le royaume des cieux, on choisit l'amour. Ça ne nous tombe pas dessus. On décide d'aimer. Dans le royaume des cieux, on décide de choisir la joie, de changer de perspective, de regarder comme ces matelas et ces sacs de couchage comme une belle décoration pour cette salle. La joie n'est pas une réponse naturelle, mais plutôt une réponse supernaturelle à la vie. Et c'est pour cela que c'est un des fruits de l'esprit, et non pas un fruit de notre personnalité. Oh, lui, une personnalité joyeuse, il est toujours gai. Non. La joie, c'est quelque chose qui se reçoit. La joie, c'est pas un réflexe aux circonstances, mais un moment miraculeux. Lorsque, dans un monde sombre, dans une situation sordide, eh bien, on voit tout à coup la présence du Créateur, du Sauveur Jésus-Christ, au travers de votre vie. Et cette joie est née d'une relation avec lui. Alors, c'est comme Paul et Silas, dans Acte 16, qui croupissent au fond d'une prison, sale, humide, probablement ça devait sentir les excréments, l'urine, et ils se mettent à louer le Seigneur toute la nuit. Emprisonnés à cause de l'évangile qu'ils annonçaient, ils ont choisi la joie. Un ange leur apparaît, ouvre les portes de leur prison. Et des suites, le gardien de prison va se donner à Jésus. Nous n'avons pas été conçus pour la dépression, nous n'avons pas été conçus pour critiquer, pour le commérage ou pour l'amertume. Nous n'avons pas été conçus pour bouder notre conjoint, ni pour créer des problèmes dans l'église ou hurler de colère sur nos enfants. On n'a pas été conçus pour ça. On a été conçus pour la joie. Galates chapitre 5, verset 16 nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est cette joie qui a fait naître dans le cœur des esclaves africains aux États-Unis les spirituals qu'on chante en battant des mains. C'est les chants les plus joyeux qu'on ait d'ailleurs dans nos assemblées. Quand on chante ces chants, on ne peut pas rester assis, on se met debout. Et pourtant, ils ont été composés, la musique et les paroles, par des gens qui subissaient le fouet, qui n'étaient pas libres. Mais quelle est la raison de se réjouir dans les épreuves ? À quoi ça sert, franchement ? Eh bien, ces gospels et ces spirituels, ils ont été composés sous l'oppression et les coups de fouet, parce que les chrétiens avaient en vue la joie de leur salut en Jésus-Christ. Leur délivrance un jour à venir au travers de la mort, que la précarité et l'horreur de cette vie d'esclave pâlissait devant leur espérance qui était grande. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement « Bon, allez, je vais composer une belle chanson parce que demain, ce sera mieux. » Non. Il y a l'auteur et le poète britannique T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, qui était prix Nobel de littérature en 1948, qui dit croire au surnaturel, écoutez bien, Croire au surnaturel ne signifie pas simplement croire qu'après avoir vécu une vie réussie, comblée sur le plan matériel et assez vertueuse, nous continuerons d'exister dans le meilleur substitut possible à ce monde, ni qu'après avoir vécu une existence faite de privations ou de frustrations, nous nous rattraperons et que tout ce dont nous avons été privés en ce monde sera compensé là-haut. Non. C'est croire que le surnaturel est la plus grande réalité ici et maintenant. Et Jacques explique ce qui se produit en moi est plus important que ce qui m'arrive. Il faut se réjouir, car verset 3, l'épreuve de votre foi, elle produit quelque chose. Elle produit la patience. Vous savez, la foi, ça sert à quoi? Sans l'épreuve, la foi, ça sert à rien. Réfléchissez. Sans l'épreuve, la foi ne sert pas à grand-chose. L'épreuve, vous savez, dans la vie, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Hein. Il y en a qui ont des épreuves, il y en a qui n'en ont pas. Tout le monde a des épreuves. Tout le monde. Tout le monde va mourir un jour. Tout le monde sera malade. Tout le monde va perdre quelqu'un de cher. Tout le monde va vivre des épreuves. Chacun à la hauteur de ce qu'il peut supporter. Jacques n'envisage pas, quand il écrit cette lettre, que quelqu'un n'en vive aucune. Nous avons tous des épreuves. Et dans l'épreuve, nous avons le choix entre se laisser gagner par le découragement, puis après par l'incrédulité peut-être, voire un cynisme, ou alors mettre sa foi à l'épreuve. Mettre sa foi à l'épreuve. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul décrit les armes du chrétien. Et la foi, c'est quoi dans les armes du chrétien? Éphésiens 6. Un bouclier. Le bouclier de la foi. Ça, c'est l'armure du chrétien. Et il faut placer sa foi comme un bouclier face à l'épreuve. Richard dit se redire ce en quoi on croit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que face à l'épreuve, nous remettons toute notre confiance en Dieu. Nous nous replaçons devant lui. De toute manière, nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner dans l'épreuve. Vous pouvez vous retourner vers votre conjoint, il vous apportera du soutien, vers l'Église qui vous apportera le soutien qu'elle peut, vers les amis, ça aide. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le seul vers lequel nous pouvons nous tourner, c'est notre Dieu. C'est de lui que dépendent toutes circonstances. Nous dépendons entièrement de lui, le Créateur. Et nous l'appelons pas seulement Père, nous l'appelons Papa. Mon Papa est tout-puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Et il connaît toutes choses. Il connaît tout ce que j'endure. Il connaît les moindres recoins de mes pensées et de mon cœur. Il sait ce que je vis actuellement et mon papa, il compatit. Il dit, je sais, moi, que mon papa m'aime. Et il m'aime plus que je m'aime moi-même et il m'aime plus que je ne pourrais jamais aimer. Il a donné sa vie pour moi sur cette horrible croix il y a 2000 ans, ça c'est une réalité. Pour que j'aie la vie, non pas la vie, non, la vie en abondance. La joie, la paix. Alors il veut passer du temps avec moi. Il veut que je m'arrête et que je l'écoute dans l'épreuve. Que je contemple ses œuvres et que je reconnaisse qu'il est le Tout-Puissant. Seul digne de louange. Alors, à ce moment-là, je tombe à genoux, comme Paul et Silas en prison, ou je me répands par terre. Et c'est lui qui me relève. Mettre ma foi à l'épreuve, eh bien, ça la fait grandir. Car l'épreuve, ça teste la réalité de notre foi, de ce que je crois. Mon bouclier, il est solide. Il ne craint pas l'assaut de l'adversaire. Vous savez contre quoi on brandit le bouclier ? contre, Éphésiens 6, les traits enflammés du malin. Hein, ce n'est pas seulement des flèches, mais en plus elles brûlent, ces flèches. Vous les connaissez, ces flèches-là. Vous avez déjà été touché au cœur par une de ces flèches dans votre existence. Si vous dites non, c'est que vous n'avez pas bien ouvert les yeux. On a tous reçu une de ces flèches un jour dans le cœur. Mais on est debout et on peut brandir notre bouclier contre ces flèches. Le bouclier ne craint pas l'assaut de l'adversaire. Celui qui se tient sur le pont d'un navire qui est en train de sombrer apprendra à ce moment-là seulement s'il est un héros ou s'il est un lâche. Celui qui se retrouve sur un champ de bataille ne saura qu'au moment du combat s'il est un héros ou s'il est un lâche. Et pour ceux qui étaient militaires, le papa de Patrick a fait la guerre et il disait « on est surpris par les héros, les gens qui sont des héros et ceux qui fanfaronnent parfois qui sont des lâches au moment du combat ». L'affliction montre à l'homme ce qu'il a dans le cœur. Si nous lui appartenons vraiment, si nous le trouvons au fond de nos cœurs, à l'œuvre, pour nous modeler à son image, et c'est là où se fait la rencontre avec notre Seigneur, par notre foi. Ma foi, elle est solide. Il y avait cette femme interviewée, que j'entends à la radio, qui a écrit un livre dont j'ai oublié le titre, et qui avait perdu son enfant d'une maladie génétique, après 3 ans de souffrance, et qui venait d'apprendre que son deuxième enfant était porteur de la même maladie, et qui dit que la foi lui a permis de ne pas se poser l'horrible question du pourquoi, une question ravageuse. Et ça lui a permis de trouver la paix, de vivre en paix dans ces horribles circonstances. Et elle décrivait, elle dit, vous savez, c'est comme la mer. On peut avoir la tempête en surface, mais au fond, c'est calme. Et au fond, malgré la violence de ce qui lui arrivait, régnait la paix dans son cœur. Alors, Jacques dit, l'épreuve de la foi, d'accord, on a mis notre foi à l'épreuve, qu'est-ce qu'elle produit ? La patience. Et le mot que Paul utilise pour patience, c'est le mot qu'on peut traduire par persévérance ou endurance. Donc, ce n'est pas ce mot qui anime celui qui est assis en salle d'attente en attendant son médecin. D'accord ? Ce n'est pas ça, la patience. C'est plutôt la patience d'un coureur de fond qui s'est entraîné pour un marathon et qui en est au 30e kilomètre, ce qu'on appelle le mur, là où vous avez les crampes qui commencent à arriver. Vous n'en pouvez plus, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous arrêter, que ce soit terminé. Avant, il y avait les spectateurs qui vous encourageaient, ça vous faisait du bien, vous les entendez même plus à ce moment-là. C'est là, c'est ce mot-là, persévérance, endurance. Il vous reste 12 kilomètres à courir. Il faut continuer. On a été entraîné pour cela, pour finir la course. On a été entraîné par la foi pour atteindre le but. Par sa grâce, il a mis en nous le vouloir, mais pas seulement le vouloir, il a mis en nous le faire. C'est Éphésiens chapitre 2. Paul nous le dit dans sa lettre. Et il dit aussi en 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » La patience que nous donne l'Esprit au travers de l'épreuve n'est pas une soumission à une indifférence face aux circonstances, de dire « rien ne me touche ». Ni même la détermination d'un esprit obstiné, je vais y arriver, je suis fort. Mais elle inspire et elle est inspirée par une vie de piété, c'est-à-dire une vie de prière. Dans l'épreuve, on tombe à genoux et on prie. Dans l'épreuve, on trouve du réconfort dans la louange à notre Seigneur. Et c'est cette patience qui produit l'intelligence et la sagesse. Elle nous aide à prendre les bonnes décisions. Je vais terminer juste par un petit témoignage pour vous montrer, c'est un témoignage qui m'a bouleversé, pour montrer ce qui peut arriver dans une vie d'épreuve. Et un parmi tant d'autres, et vous en avez d'autres dans vos existences. Un jeune homme arrive en avion et il est accueilli par le pasteur de son église à Dallas, qu'il avait quitté depuis longtemps et il venait de l'Europe. Et le pasteur lui dit, ben, écoute, je ne peux pas tout de suite te conduire à la maison, mais on doit passer de voir une famille qui vient de vivre quelque chose de difficile. Et ils arrivent dans cette famille et ils viennent de perdre leur nourrisson d'une mort subite. C'est déjà difficile de perdre son enfant, mais quand c'est juste avant Noël, ils arrivent là, il y avait les cadeaux qui étaient encore là sous le sapin, et bien sûr, cette famille était décomposée. Et ils sont restés là quelques temps et à prier avec la famille, à essayer de trouver des paroles de réconfort. Quelques années après, ce jeune homme est revenu dans son église, il était là pour les vacances, et il a demandé au pasteur, « Tiens, mais qu'est-ce qui est devenu ce couple qui ont perdu leur enfant ?» Et voilà ce qu'il a répondu. Après l'enterrement, la femme décida de transformer son chagrin en bénédiction. Chaque jour, encore aujourd'hui, elle parcourt la rubrique nécrologique du journal local. Et si elle apprend qu'un enfant en bas âge est mort, elle se rend au foyer de cette famille et les réconforte. Elle comprend et elle est capable de dire des choses que personne d'autre ne pourrait dire à sa place. Suite à son ministère, il y a de nombreuses femmes qui sont venues au Seigneur. Sa guérison a commencé lorsqu'elle a réalisé que ce qui se passe en elle est plus important que ce qui lui arrive. Je vous invite à prendre le psaume 27 comme prière et puis nous chanterons. On a eu ce chant dans la tête, Marilena et moi. Dieu est mon bouclier, pour le combat m'entraîne, il est mon surallié. Si on pouvait prendre ce chant juste après. Le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen.